Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir.
Toucher.
Entendre.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Philippe Bobola, physicien et biologiste, est membre de l'Académie des sciences, des arts et des lettres de Lausanne. Après avoir été enseignant aux universités Paris 5 et Paris 6, Philippe se consacre désormais à l'écriture de ses livres. Je l'ai rencontré à l'occasion du 10e festival du chamanisme de Genac. Dans cette interview, il nous explique les rapports étroits qu'il voit entre le chamanisme et la physique quantique. Il nous partage sa vision d'un monde réenchanté entre science et culture traditionnelle.
J'ai une quadruple formation, mais c'est pour ça que je suis un peu dans le cercle. Une formation de physicien, théoricien, de biologiste, d'anthropologue et de psychanalyste. Donc moi, je m'intéresse aux liens qui existent entre les choses. C'est d'ailleurs une philosophie de la physique quantique, discipline que vos auditeurs connaissent forcément.
Bah, de nom, c'est vrai que la physique quantique, c'est de plus en plus populaire, on en entend parler, on voit des conférences sur Internet, mais j'aimerais bien quand même qu'on définisse qu'est-ce que la physique quantique. Est-ce qu'on va peut-être parler un peu de ça?
Alors la physique quantique est une branche de la physique qui est née en 1900 avec un physicien allemand du nom de Max Planck. Il va découvrir que la matière, donc un ensemble d'atomes, émettent de la lumière par paquet. Un paquet, en latin, ça se dit quantum, et au pluriel, ça se dit quanta. Donc, la physique qui régit l'infiniment petit va manier des paramètres. Alors, j'appelle paramètres la vitesse, l'énergie, et ces grandeurs sont quantifiées, c'est-à-dire qu'elles vont progresser par bond. Et entre deux valeurs, il n'y a rien. Donc, cette petite contrainte qu'on appelle une contrainte de discontinuité, donc si vous tracez une ligne avec un papier à crayon, elle est supposée être faite d'une infinité de points tellement serrés les uns à côté des autres que votre œil les voit lisses. Et puis si je prends une gomme, je vais enlever certaines régions de ma droite. J'ai donc créé une discontinuité. Et si j'enlève régulièrement sur ma droite, par exemple, 1,5 cm tous les 2 cm, eh bien j'ai une discontinuité régulière. Et c'est exactement une des propriétés de la physique quantique, c'est la propriété du monde atomique et maintenant on le sait du monde moléculaire, c'est cette capacité à évoluer par discontinuité, donc par bond, d'où le terme de physique quantique.
Mais j'aimerais quand même le visualiser, le bien le comprendre. Par exemple, là autour de nous, on est assis dans un canapé, le ciel est bleu, une maison en pierre devant nous. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple concret de quantique? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait identifier ici?
Pourquoi le ciel est bleu? C'est une question toute bête, c'est une question que peuvent se poser les enfants. Eh bien, le soleil nous envoie de la lumière, comme vous le savez, et cette lumière va interagir avec les atomes. Et donc, on a un phénomène de diffusion. Or, il se trouve que la diffusion de la couleur bleue est 5 fois supérieure à celle de la couleur rouge. C'est parce que la diffusion obéit à des lois quantiques que le ciel est bleu. C'est une preuve de l'existence du monde quantique. En physique quantique, on va introduire une notion, c'est la notion de participant et de perturbateur. Donc quand on veut étudier un objet quantique, le simple fait d'être présent avec sa conscience, sa personnalité et ses instruments vont nous donner un réel voilé. C'est-à-dire que le réel que l'on va mesurer, c'est le réel révélé par nos instruments et notre personnalité. Ce qui fait qu'il n'y a plus de séparation entre celui qui fait la mesure et la mesure. On dit que le physicien devient un participant. Et la physique quantique est qualifiée de physique participative. C'est-à-dire que le résultat qu'on obtient serait différent s'il y avait un autre observateur. Et même s'il n'y avait pas d'observateur et de conscience, il n'y aurait rien qui se passe.
Et donc ça veut dire que ma réalité et la vôtre, de ce qu'on perçoit là maintenant tout de suite, n'est pas la même.
On ne peut pas généraliser comme ça. Ça veut dire que, imaginez un atome qui peut coexister au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc l'atome, il est avant la mesure aux 4 points cardinaux. Mais lorsque une mesure va être pratiquée, est-ce que le nord obtenu, c'est la réalité? Ou la réalité, c'était le fait que l'atome pouvait exister simultanément aux 4 points cardinaux? Ce qui fait que cette nouvelle discipline, la physique quantique, introduit la notion de réel voilé, et donc de physique participative. Alors c'était intéressant parce que imaginez qu'au lieu d'avoir nord, sud, est, ouest, on est je suis très malade, un peu malade, moyennement malade, totalement malade. C'est des potentialités. Il y a quelqu'un qui va actualiser l'une de ces potentialités. Par exemple, je suis en pleine santé. Donc vous êtes responsable de votre santé et vous êtes responsable aussi malheureusement de votre maladie.
Cette théorie-là, on la retrouve aussi en psychanalyse, non ?
En psychanalyse, non, parce que la psychologie s'est enfermée dans les sciences humaines. Mais je pense qu'on pourrait expliquer l'inconscient, concept clé de toutes les psychanalyses, par des lois quantiques.
Je m'intéressais un peu à des mots. Vous parliez au tout début de la croyance. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance et en quoi est-ce qu'elle peut être dangereuse ?
On ne peut pas prétendre avoir accès à l'objectivité pure. Vous avez un mélange de projection de votre intériorité, donc de votre culture, et de la réalité que vous observez. Donc on a fait des tas d'expériences, par exemple sur un terrain de foot, vous connaissez peut-être, on fait venir un gorille. On demande à des gens de regarder un petit film qui se passe sur un terrain de foot, et on demande aux gens s'ils ont vu un gorille. Et les gens vous disent, ben non, on ne l'a pas vu. Alors, il apparaît nettement, parce que c'est inattendu d'avoir un gorille sur un terrain de foot. Donc on voit que ce que l'on attend à voir. Alors ça nous amène à envisager les fondements des sociétés. C'est un sujet qui est peu abordé. Une société, elle repose sur des paramètres cachés. Hein, par exemple, la conception de l'espace, du temps, de l'énergie, de la lumière. Est-ce que ce que je vois peut prétendre être totalement issu d'une objectivité ou c'est subjectif ? Voilà, les paramètres en gros cachés, il y en a bien d'autres, hein, évidemment. Donc nos sociétés sont plutôt liées à la physique classique. Donc dans la physique classique, c'est la logique du « où » qui l'emporte. Par exemple, les opposés du monde matériel et du monde immatériel sont difficilement compatibles en physique classique. Mais en physique quantique, l'atome, il est onde et corpuscule. Vous voyez bien qu'on a une logique du « où » en physique classique et une logique du « et » en physique quantique. Donc la logique du « et », c'est la logique de l'inclusion. Ce n'est pas une logique qui débouche sur l'analyse, la territorialisation, la séparation, la division, la fission, mais au contraire, une physique de la réunification. Alors, les sociétés modernes ont plutôt pris appui sur la logique de la physique classique, ce que j'appelle la logique de l'extériorité. Et les sociétés traditionnelles, sans qu'ils les formalisaient comme telles, ont plutôt pris appui sur la logique de l'intériorité, c'est-à-dire la logique de l'atome, avec les propriétés propres à l'atome, c'est-à-dire la non-séparabilité, c'est-à-dire deux objets quantiques qui ont été en contact le resteront malgré la distance qui les sépare dans l'espace et dans le temps. Le fait d'avoir pour tout objet une double dimension onde et corpuscule, on peut se poser la question si l'onde associée à un objet ne serait pas ce que les sociétés traditionnelles appellent l'esprit d'une chose. Donc modifier un objet, c'est modifier aussi l'onde qui lui est associée, c'est l'œuf et la poule. Donc vous comprenez aussi que là, il y a un pari à faire. Si l'objet est animé à une onde, un esprit, on ne veut pas le modifier, parce qu'on aurait le risque de voir l'esprit se modifier, voire disparaître, ce qui fait que les sociétés traditionnelles, qu'on appelle en ethnologie des sociétés froides, on peut développer la technologie. Nos sociétés à nous ont considéré que seule la matière existait, que la vibration était séparée de la matière, d'une certaine façon, et ont eu la possibilité de modifier les objets. C'est tout le développement de l'objet technique et de la science et de la technologie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Survez ce moment.
Le chemin le plus court pour se découvrir soi.
Regarde ailleurs sur le chemin des différences.
Donc intéressant cette notion du « et du « où ». Et donc dans les peuples traditionnels, ce serait le « et ». On prend en considération ce qu'on pourrait appeler donc cette âme et cet esprit. On est en communication, en connexion, tout est interdépendant.
Voilà. Et puis bon, il y a plein de choses. Par exemple, j'ai travaillé avec un collègue, on a établi ce qu'on appelle la théorie des quatre équilibres. Toute société doit établir des équilibres ou des tendances vers l'équilibre. L'équilibre de soi à soi. C'est-à-dire, vous êtes bien avec vous-même, si je puis dire, dans votre peau, donc ça entraîne un deuxième équilibre, l'équilibre de soi aux autres. Puis après, vous avez l'équilibre de soi à la nature et au cosmos. Et puis, vous avez un quatrième équilibre qui est l'équilibre de soi avec le monde invisible, le monde des dieux, des entités, etc. Alors, le monde traditionnel établit avec la nature non pas un rapport de force, mais un rapport de symbiose. Donc, en biologie, la symbiose, c'est le fait que deux entités A et B ont décidé de mettre leurs atouts en commun de façon à compléter mutuellement leurs faiblesses. Donc, il y a une notion d'affinité. Ce que les Américains résument par win-win, on est gagnant tous les deux. Eh bien, les sociétés traditionnelles ont considéré qu'il était indispensable d'établir une relation symbiotique avec la nature.
Et qu'est-ce qui fait que nous, on se soit complètement déconnecté de ce monde invisible ?
Oh, ben, y a eu beaucoup de causes à ça. Première cause, alors on va prendre des causes, on va dire, religieuses au départ. Les sociétés traditionnelles sont plutôt dans ce qu'on pourrait appeler une spiritualité. Il n'y a pas la notion d'un dieu monothéiste. La chrétienté, au départ, a voulu prendre appui sur le monde juif, ça n'a pas marché, donc ils ont pris appui sur les païens. Et les païens avaient une sorte d'adoration de la nature, donc c'est devenu vite gênant. Donc on a un petit peu diabolisé la nature, donc ça a entraîné une première séparation de l'homme avec la nature.
Pourquoi la religion a fait cette division, cette scission entre les deux ?
Parce qu'elle a voulu s'imposer par rapport au paganisme, et donc progressivement... Le rapport que les païens pouvaient établir avec la nature, qui est un rapport de symbiose, est devenu un rapport de force, dominant-dominé.
Ce qui est encore le cas aujourd'hui, on est dans un vrai rapport de prédation envers l'environnement et la nature.
Tout à fait. Donc voilà, le rapport de l'homme avec la nature est devenu un rapport de prédation. Ensuite, la science qui s'est développée en grande partie grâce à cause du monothéisme, c'était le programme de Dieu qu'on essayait de comprendre finalement, ouais.
Mais ce qui est intéressant dans ce que je comprends, c'est que finalement, la religion nous a détourné de la spiritualité.
La religion, c'est la spiritualité avec des dogmes. Et donc, la spiritualité, c'est la religion affranchie. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde ici, il y a une quête de sens. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la science n'apporte pas le bonheur. Et la technologie, ça crée beaucoup de frustration. Et puis, on a besoin de retrouver nos racines. Il y a un mal-être existentiel, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre que gagner sa vie, ça, c'est pas suffisant. Vous avez énormément de cadres qui gagnent très bien leur vie, hein. Certains pourraient les envier, 15 000, 20 000, voire même plus, mais ils n'ont pas de sens dans le travail qu'ils font quotidiennement. Donc on a besoin de retrouver un sens. Je pense qu'aussi l'humanité prend conscience qu'on est à un point carrefour, ou bien on bascule du côté du transhumanisme, ou bien on retrouve notre humaine nature. Et donc ces peuples nous ramènent à notre humaine nature, c'est-à-dire la nécessité de vivre en relation avec la nature, hein. C'est un peu une évidence, mais ça avait déjà été dit par Paul Valéry, qui dans les années 20 a fait un discours destiné aux chirurgiens. Vous savez que les chirurgiens sont des gens manuels. Il a dit « La main, c'est cet organe extraordinaire en quoi réside toute la puissance de l'humanité, et par quoi, assez curieusement, elle s'oppose à la nature, de laquelle cependant elle procède. » Ça veut dire que la main a fait de nous un homo faber, un fabricant d'outils, mais cette même main qui, d'une certaine façon, nous a rendus humains, même si on sait que maintenant les animaux peuvent fabriquer des outils, mais on n'a pas vu une marmotte fabriquer un laser. Bon. Cette même main qui a débouché sur la science et la technologie devient presque un handicap pour la survie de la planète. C'est vrai que les financiers sont contents pour eux. L'argent rentre, etc. Et donc ils raisonnent à courte durée. Mais s'il y a autant de gens ici, si vous m'interviewez, vous voyez bien qu'il y a un mouvement qui est en train de se développer. Qui n'est pas un mouvement politique, qui n'est pas un mouvement religieux, qui est un mouvement tout simplement pour réveiller l'humaine nature que nous avons en nous. C'est tout. Qui s'est endormie. Et c'est, d'ailleurs, les sociétés traditionnelles le savent. La plupart des sociétés traditionnelles, surtout les sociétés précolombiennes, envisagent un cycle de 25 000 ans. Qui correspond au mouvement de précession des équinoxes, c'est-à-dire tout simplement la Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour d'un axe de rotation, et cet axe est à un certain angle par rapport à un plan écliptique. Et la Terre n'est pas une sphère parfaite, c'est-à-dire que quand vous partez du pôle nord pour aller vers le pôle sud, en suivant la croûte terrestre, vous avez créé ce qu'on appelle un rayon de courbure. Mais si la Terre était une sphère parfaite, le rayon de courbure qui lie le pôle nord au pôle sud et le rayon de courbure à l'équateur devraient être égaux. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une différence de 21 km sur les 6400 km de rayon. C'est suffisant pour amener ce double mouvement de la Terre sur elle-même et autour du Soleil à générer un cône. Et donc, ce cercle, on va le parcourir en 25 000 ans. Eh bien, sans rentrer dans les détails de ces cycles qui peuvent vite devenir compliqués, mais en gros, si vous partez d'un point A à droite, vous allez parcourir, si vous considérez ce cycle comme un cercle, un demi-cercle, pour arriver à un point B. Cette première partie va correspondre à un endormissement progressif de l'humanité. Vous retrouvez ça dans le shivaïsme, dans l'hindouisme, etc. Et puis, ensuite, comme c'est un cycle, vous allez partir du point B pour revenir vers le point A. Et là, c'est le réveil de l'humanité. Et donc, on est dans une période où on commence à sortir du point B pour rejoindre à nouveau le point A. Et donc, après avoir connu progressivement un endormissement de l'humanité, alors les Indiens parlent de Kali Yuga, caractérisé par un hypermatérialisme, un consumérisme, un manque de sens dans ce qu'on fait, une rupture de lien avec la nature, etc., etc. C'est pour ça que les gens viennent ici, parce qu'ils sentent vibrer en eux leur humaine nature, c'est leur âme, en quelque sorte, qui les amène à venir à ce festival, qui est véritablement un rassemblement des consciences, de la conscience, et puis une autre façon d'envisager la vie sur Terre que celle que les financiers nous ont proposée.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
L'émission radio pour se découvrir soi.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Revenir à cette idée de tronc commun entre les différents peuples premiers qu'on retrouve ici, mais je m'interroge aussi sur l'homme est souvent attiré vers ce qu'il n'a pas, il veut ce qu'il n'a pas. Est-ce qu'il n'y a pas une perversion du monde moderne envers les peuples premiers qui eux aussi aimeraient peut-être aspirer à la technologie, à la modernité, et qui risqueraient de les déconnecter finalement de l'environnement naturel dans lequel ils sont en lien?
Vous avez raison, parce que si vous voulez, en ethnologie, vous avez... des processus sidères, des destructions. Le premier, c'est ce que l'Amérique précolombienne a connu, c'est le génocide. Ensuite, vous avez l'ethnocide, c'est la mort d'une ethnie. L'ethnie se réduit, les enfants partent faire des études, ils ne reviennent pas dans leur famille, etc., etc. Ensuite, vous avez l'écocide, c'est quand l'environnement a complètement été détruit parce que la modernité l'a envahi. Et le plus grave, c'est quand on est dans l'égocide, c'est-à-dire on a honte d'être un aborigène australien ou un indien Shipibo-Conibo parce qu'on a l'impression d'être à côté de la plaque. La modernité cherche à s'étendre, mais d'une certaine façon, il y a un principe de résistance parce que les peuples traditionnels se rendent bien compte qu'ici, on n'est pas heureux. Il nous manque des choses. Et donc, après avoir connu une période de fascination, puisque tout semblait rouler bien pour l'Occident, on était en Europe dans les 30 glorieuses. Maintenant on est en pleine crise, donc je veux dire, ils se rendent bien compte de ça.
Et finalement, cette crise, elle n'est pas seulement économique, elle n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle. Cette crise, c'est aussi ce manque de sens dont vous parlez.
Alors c'est intéressant quand on regarde les signes avant-coureurs d'un effondrement économique. Alors c'est pas les paramètres économiques, c'est le manque de créativité artistique. Si vous prenez la chute de l'Empire romain, donc quand on regarde à partir du 1er, 2e siècle, on s'aperçoit qu'il n'y avait plus de grands poètes romains, il n'y avait plus de grands dramaturges romains, il n'y avait plus de grands historiographes romains, de grands sculpteurs, etc. etc. On n'a plus de grands philosophes comme on a pu en avoir. Si vous n'avez plus de créativité, vous avez moins de capacité à aborder le monde à venir. On n'est pas la première civilisation à connaître un effondrement. Regardez, c'est Paul Valéry qui disait « Maintenant, nous savons que toute civilisation peut périr. »
Une autre crise à laquelle on n'a pas parlé, alors que c'est une crise qui est peut-être nouvelle. Je ne sais pas si elle a lieu dans les générations passées, mais c'est une crise écologique.
Oui, bien sûr, il y a une crise écologique, mais le fait qu'il y ait un droit de l'environnement, ça veut dire que les gens n'ont pas compris les lois de la nature. Vous voyez ce que je veux dire ? L'environnement, c'est l'écologie des villes. L'écologie ne peut pas être un parti, vous comprenez bien. L'objectif souvent des écologistes en Europe, c'est d'avoir un portefeuille ou d'avoir un poids à jouer dans les élections. On devrait faire en sorte que l'écologie, qui n'est pas l'environnement, soit en dehors des partis, soit apolitique, quoi. Alors effectivement, on a une crise environnementale qui est l'indicateur ou le révélateur de la façon dont on a essayé de dominer la nature. C'est pas étonnant non plus si l'Occident débouche sur le génie génétique, la transgénèse animale ou végétale, puisque finalement, ça c'est plutôt le volet psychanalytique, selon Adler, l'homme se sent tout petit devant la nature. Le fait d'être devant cette nature imprévisible, beaucoup plus forte que l'homme, qui a une capacité de reconstruction beaucoup plus rapide que l'homme, ben finalement, c'est tellement gênant pour l'homme que s'il pouvait faire une nature artificielle, contrôlée et contrôlable, ça serait bien. Ce qui est le contraire d'un homme traditionnel qui, lui, considère qu'il est bien dans la nature. Donc oui, effectivement, il y a un problème d'environnement, il y a un problème de pollution, mais vous l'avez bien défini. Est-ce qu'avant tous ces problèmes, il n'y a pas une crise culturelle qui entraîne les autres?
Je vais en revenir à ICI, donc au cercle de sagesse qui organise ces rencontres chamaniques. Donc, que viennent faire les festivaliers ici? Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher?
Alors, on a tout. Il y a des gens qui sont en cours de cheminement chamanique, donc ils viennent être pour voir d'autres chamans. Il y a des gens qui viennent pour recevoir des soins. Il y a des gens qui viennent trouver peut-être à nouveau du sens dans une société occidentale en dérive. Il y a des gens qui sont curieux, il y a un peu de tout. Et c'est un peu révélateur de la société actuelle.
Ce monde des esprits dont vous parlez, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on pourrait l'identifier ou l'exprimer ou l'expliquer?
Selon les sociétés traditionnelles, il n'y a pas qu'une réalité, il y a une réalité double. Donc à la base du chamanisme, vous avez le fait que le monde il est dualiste, bipolaire. Il y a le monde dans lequel nous vivons et puis il y a un autre monde dans lequel on trouve des esprits, des ancêtres, des esprits positifs, des esprits négatifs. Et donc le chaman est celui qui va pouvoir communiquer avec ce monde invisible, recevoir des informations qui vont lui permettre d'établir un acte pour redresser l'équilibre, alors qu'il soit réel ou symbolique, hein. Soigner les individus, soigner le groupe, voilà, parce que c'est un chaman.
Et le chaman, donc, qui est un mot générique d'Amérique du Sud, d'Australie, d'Afrique, d'Asie, perçoit la même chose et dans la même dynamique?
Il y a des différences, hein, mais il y aura toujours ce monde visible et ce monde invisible. Par exemple, chez les Mongols, il y a des oracles qui viennent donner des informations pour soigner les gens. En Amérique du Sud, il y a des esprits qui viennent aider à soigner, qui ne sont pas les mêmes. Bon, chacun aura son panthéon, vous voyez. Alors après, bah évidemment, ça s'oppose furieusement, si je puis dire, à la rationalité occidentale qui, elle, ne croit qu'à ce qu'elle voit. Le monde invisible, tout ça, c'est des croyances, etc. Donc ça relève plus de la psychanalyse, voire de la psychiatrie, que réellement une technique spirituelle.
Mais Philippe, vous n'êtes pas un peu un mouton noir, là, dans le cercle des physiciens, des biologistes qui ont justement cette vision peut-être plutôt cartésienne? Et vous, vous acceptez la possibilité d'avoir accès à d'autres mondes, d'autres réalités?
Pas du tout, parce que si vous voulez, si vous, les auditeurs jugeront, il n'y a aucune croyance dans ce que j'ai dit, c'est de la logique qui se déduit. Mais l'anthropologie, c'est quelque chose d'à part. Alors, il est temps que l'anthropologie puisse nourrir d'autres disciplines. Un anthropologue, c'est quelqu'un qui a reçu une formation en sciences humaines. Il y en a qui ont une formation de philosophe, donc ont une formation d'ethnologue. Mais en tous les cas, ils viennent des sciences dites humaines. Et donc, les sciences humaines semblent s'opposer aux sciences dites dures. Il est temps que les sciences humaines et les sciences dures, d'ailleurs c'est dans les deux sens, puissent établir un dialogue.
Je vais revenir au début de cette émission, on parlait du sens, cette recherche de sens dans pas mal d'individus. Donc j'ai envie de donner des clés à celui qui nous écoute, à cet auditeur, qui peut-être aussi se pose cette question du sens dans sa vie. Comment faire, par quoi commencer pour y mettre plus de sens?
Je crois qu'il faut déjà faire un inventaire honnête. Est-ce que dans ma vie j'ai du sens? Est-ce que j'ai du sens dans mon travail? Est-ce que j'ai du sens à travers mon couple? Est-ce que j'ai du sens à travers ma vie relationnelle? C'est déjà un constat, un bilan. Ensuite, si ce n'est pas le cas, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui vous manque.
Mais accepter de se poser ces questions, c'est aussi peut-être accepter d'avoir tort et de ne pas être à sa place et de devoir tout remettre en question. C'est difficile, ça, souvent.
Oui, mais c'est parce qu'on est victime, d'une fois de plus, d'une idéologie. J'ai fait avec le maître de ces lieux, Marc Vela, une conférence à Paris qui s'appelle « La fausse note ». La fausse note est nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde est parfait quand on a compris qu'il ne sera jamais parfait. on est dans la recherche de l'idéalité, de la perfection, ça n'existe pas. La fausse note est nécessaire. Alors à partir de là, si c'est vraiment un mal-être existentiel, bah, il faut que la personne se mette en mouvement. Donc elle peut aller voir des gens qui peuvent l'accompagner dans la psychothérapie. Et puis après, il faut qu'elle essaye, elle, de voir quelque chose qui lui conviendrait.
Mais c'est difficile aujourd'hui, si on est dans cette recherche de sens, tous les modèles qui nous sont proposés et offerts, je parle du développement économique et matériel, c'est compliqué de trouver sa place si on recherche une connexion avec le divin, avec le spirituel.
La spiritualité, vous pouvez la mener dans votre coin. Vous n'êtes pas obligé de fusionner dans le monde dans lequel on vous a mis. Je veux dire, c'est aussi un principe de résistance. C'est difficile, il n'y a pas une réponse unique à ça, quoi. Il y a mille et une raisons de ne pas être bien dans sa vie. Mais en tous les cas, le fait d'être mal dans sa vie, ça prouve quoi ? Ça prouve que la société nous a déséquilibrés. Et c'est là où l'ethnologie est intéressante, parce que les sociétés traditionnelles, quand quelqu'un se met à faire un acte délictueux, eh bien, la société se remet en cause. On se pose la question différemment en se disant, mais qu'est-ce que la société a fait pour qu'un tel individu émerge ? On admet qu'un individu déséquilibré puisse mettre en péril la société, c'est pour ça qu'il y a des prisons, c'est pour ça qu'il y a des hôpitaux psychiatriques, hein. Il ne s'agit pas de nier le fait, mais on n'admet pas que la société déséquilibrée puisse mettre en péril l'équilibre des individus.
Mais donc là, c'est tout le système éducatif qu'il faudrait revoir et reconsidérer.
Il y a beaucoup de choses, il y a tout à faire. Il y a les systèmes pédagogiques, éducatifs, il y a une autre façon de concevoir le monde, vous voyez, il y a tout à faire. Donc la tâche est immense, chacun à sa mesure pourra jouer le rôle d'un petit principe actif qui va se diluer. Donc à partir du moment où un individu est mieux dans sa peau, bah, il va rayonner, etc. Donc si vous avez compris la façon dont les sociétés traditionnelles envisagent l'équilibre sociétal, essayons de nous reconnecter, d'avoir une reliance, et ça ce sont les prémices d'une rétroaction sur l'équilibre de soi aux autres et de soi à soi. Si vous regardez, qui peut prétendre être bien dans sa vie ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une crainte vis-à-vis de l'avenir, on a une crise économique qui plane au-dessus de nous. Vous ouvrez la télévision, les médias, il n'y a que des mauvaises nouvelles, donc je vous remercie de donner des bonnes nouvelles. L'équilibre, c'est quelque chose qui s'entretient chaque jour. On n'est pas équilibré, il y en a qui naissent déséquilibrés, c'est pas possible. C'est quelque chose qui se maintient. C'est aussi une des grandes leçons des sociétés traditionnelles qui ont compris que l'équilibre, ça s'entretient jour après jour, par des actes, des rituels, etc. etc. Regardez, maintenant ça change, mais à une époque, il y avait deux états, la santé et la maladie. Qu'est-ce qui amenait une personne en bonne santé à devenir malade ? On ne s'intéressait pas à ça. Ce qui comptait, c'était de soigner la personne malade. Donc maintenant, on commence à voir la prévention. Donc je pense qu'il y a une prévention spirituelle, culturelle à faire. C'est un peu ce que les gens sont venus chercher ici. Ils sentent le besoin de reprendre leur vie en main, de donner à cette vie un sens, de permettre l'équilibre dans tous les sens du terme sur la planète, entre les peuples.
Et pour terminer, votre rôle ici durant l'ensemble du festival, donc c'était plus s'intéresser aux différentes traditions et trouver des liens entre elles ?
Mon rôle, c'est d'essayer de faire émerger le fond commun de toutes ces sociétés, de voir avec eux si je traduis bien en mots et en logique ce qu'ils ont, parce qu'ils ont des choses à nous apporter, mais on a aussi des choses à leur apporter. Alors on a nos forces et nos faiblesses. La force de l'Occident, c'est sa structuration, sa logique. Sa faiblesse, c'est son excès de structuration, qui peut déboucher sur une psychorigidité. La force des sociétés traditionnelles, c'est l'absence de structure apparente et leur spontanéité, mais c'est aussi leur faiblesse. Donc il y a des ponts qui sont nécessaires à faire, qui vont au-delà d'un rituel qui peut vite sombrer dans le folklorisme. C'est d'essayer de comprendre comment l'Occident et, je ne peux pas dire l'Orient, mais les sociétés traditionnelles peuvent relationner, que les gens puissent comprendre, puisque qu'on le veuille ou pas, on est né dans une culture, notre cerveau est façonné et votre hémisphère gauche, il a soif. Même si votre hémisphère droit vous persuade que vous n'avez pas besoin de boire, vous avez soif, et donc vous avez besoin de cette structuration, de cette logique. D'ailleurs, c'est un peu une légende, parce que quand vous regardez les sociétés traditionnelles, ils ont une pensée structurée avec des mythes. Ça serait tout un long développement, mais les mythes, c'est un cours de physique habillé, si je puis dire. Donc ils ont une pensée extrêmement structurée, sauf que ça ne s'exprime pas comme la pensée occidentale, à coup d'équations, à coup d'algorithmes. Ça s'exprime de façon plus artistique, mais à travers des mythes. qui véhicule une logique.
Merci beaucoup, Philippe.
Ben, merci à vous. Et bonne chance dans la quête de sens à vos auditeurs.
Regarde ailleurs, l'émission radio sur le chemin des découvertes.